La chemise à rayures.
Info, invité, reportage
sur Radio Centrafrique.
Tout droit sorti des archives poussiéreuses de la télévision française, M. Giscard d'Estaing s'exprimait quelques jours seulement après la catastrophe de Tchernobyl. Nous sommes en 1986.
Je crois que d'abord il faut rassurer les Français. Le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure est un nuage dont la radioactivité de toute façon ne comporte pas de danger pour la population. Il est un taux de radioactivité qui est faible par rapport à celui qui aurait des conséquences sur la santé de la population. Pas de danger pour la population. Pas de danger pour la population.
Avec nous sur ce plateau en direct, Valéry Giscard d'Estaing, avec qui nous allons parler notamment du prochain sommet de Tokyo. Mais tout de suite, Monsieur le Président, peut-être un rapide commentaire sur l'événement du jour, à savoir cet accident survenu dans la centrale nucléaire en Union soviétique.
D'après ce qu'on sait, c'est un accident civil, ça n'a en tout cas aucune implication de caractère militaire. C'est un accident dans une centrale dont nous savons qu'elles sont construites avec des règles de sécurité très inférieures aux nôtres. D'abord parce que la technologie est une technologie plus rustique. Vous avez vu qu'il y a un seul circuit d'eau au lieu d'avoir deux circuits isolés de refroidissement. Et d'autre part parce qu'il n'y a pas d'enveloppe protectrice. Et que donc lorsqu'il y a une fuite ou une sortie, elle n'est pas interceptée par un système de protection. Je crois que d'abord il faut rassurer les Français. Le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure est un nuage dont la radioactivité de toute façon ne comporte pas de danger pour la population. Il est un taux de radioactivité qui est faible par rapport à celui qui aurait des conséquences sur la santé de la population. C'est un accident qui est arrivé il y a déjà quelques jours. On pense que c'est samedi après-midi, en réalité. Les soviétiques ne l'ont annoncé qu'avec un certain retard. Ils l'ont annoncé parce que, sans doute, on l'a repéré, notamment au-dessus des pays scandinaves. Alors, je crois qu'il faut manifester notre solidarité. C'est un accident civil. Sans doute, la population locale en Ukraine a été éprouvée. Et s'il y a des manifestations de solidarité vis-à-vis d'un accident dans une centrale, comme dans une grande usine chimique ou métallurgique, il faut que la solidarité internationale se manifeste. Et j'adresse mes condoléances aux victimes de cet accident dans une centrale nucléaire soviétique.
26 ans plus tard, la catastrophe de Fukushima et toujours aucune sûreté nucléaire, c'est ce que déclare une contre-enquête rendue publique lundi dernier par Greenpeace. Alors cette contre-enquête, c'est un long document technique de 178 pages, c'est assez balèze, qui passe au crible les conclusions des évaluations complémentaires de sûreté réalisées par EDF, Areva, et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les centrales françaises après l'accident de Fukushima. Yves Marignac est le directeur de l'Agence française d'information et d'études sur l'énergie, Wise Paris, et il est également l'un des deux auteurs de ce rapport. Avant de vous en exposer le contenu, il fait le point sur le paysage nucléaire français.
Le bilan global, c'est d'abord un très grand nombre d'installations. La France est le pays qui, proportionnellement à sa population, a le plus poussé de loin l'industrie nucléaire. C'est des installations qui, dans l'ensemble, ont été conçues et construites avant les grands accidents nucléaires qu'on connaît, qui sont Three Mile Island en 79, Tchernobyl en 86 et maintenant Fukushima en 2011. Donc c'est des installations qui n'intègrent pas suffisamment de prévention ou de protection vis-à-vis de ces accidents, qui vieillissent. Et donc le constat global, c'est que des accidents majeurs, pas forcément avec les mêmes causes, mais avec le même type de conséquences que Fukushima, sont possibles de façon extrêmement réaliste, malheureusement, sur un très grand nombre de nos installations nucléaires. Toutes les centrales nucléaires, on en a 19, et également les usines du combustible, et en particulier l'usine de retraitement de La Hague.
19 centrales, 58 réacteurs nucléaires, avec ça la France bat les records mondiaux au kilomètre carré. Une simple fissure, un simple accident se transformerait vite en pure catastrophe. Et comme nous allons le voir, il n'est pas improbable que cela arrive.
Sur les centrales, les deux grands scénarios d'accident qu'on peut craindre, c'est d'un côté, au niveau des réacteurs eux-mêmes, les accidents de fusion du cœur, donc ça c'est ce qu'on a observé à Fukushima, ou le cœur du combustible, sous sa propre chaleur, si on n'arrive plus à le refroidir, fond, et en fondant, il perce la cuve, il libère beaucoup de gaz, il peut provoquer une explosion qui peut détruire l'enceinte de confinement et donc relâcher beaucoup de radioactivité dans l'atmosphère. Il peut également, en fondant et en se répandant au fond du bâtiment, percer le béton du bâtiment réacteur et entrer en contact avec les, les nappes phréatiques et donc provoquer une contamination des eaux. Et puis on a un deuxième type d'accident majeur possible qui concerne les piscines où l'on refroidit le combustible une fois qu'on l'a utilisé. Donc on a pour chaque réacteur sur les centrales une piscine où on entrepose ce combustible. Si on perd l'eau dans la piscine, c'est-à-dire si une brèche fait que la piscine se vide, et si on n'arrive plus à refroidir, les gaines du combustible sous l'effet de la chaleur du combustible lui-même finissent par s'enflammer. Et ce feu libère énormément de radioactivité, avec le problème qu'on n'a pas sur les piscines d'enceinte de confinement, si on n'a rien pour protéger l'environnement quasiment, dès lors que ce feu se produit et libère de la radioactivité. Donc dans les deux cas, c'est des scénarios d'accident qui peuvent produire des conséquences en termes de contamination radioactive du même type que celle qu'on a connue à Tchernobyl et à Fukushima, c'est-à-dire pouvant atteindre des dizaines de kilomètres au-delà de la centrale, avec toutes les conséquences à la fois sanitaires et économiques et humaines, hein, avec les déplacements de population que ça supposerait. Conséquences évidemment dramatiques et inacceptables.
Beaucoup de choses rentrent en compte en termes de défaillance et de manque de sécurité. Le principal, c'est que quand nous avons conçu les réacteurs il y a quelques dizaines d'années, nous n'avons pas imaginé tous les scénarios graves qui pourraient se passer. Cependant, des catastrophes comme Fukushima ont montré que ce qui pouvait se produire, ne devait jamais se produire, s'est produit. Au-delà des faiblesses de conception initiale, s'ajoutent donc des problèmes liés à la qualité de détail de la sûreté nucléaire, mais aussi ceux du vieillissement de nos centrales en termes de matériel qui se dégrade énormément notamment. Voilà, ça fait beaucoup de probabilités au mètre carré.
Un accident majeur est possible sur chacun des réacteurs, des 58 réacteurs français, sur chacune des piscines d'entreposage du combustible qui accompagnent les réacteurs, et également sur les grandes usines, notamment l'usine de La Hague en Normandie, qui est probablement le site nucléaire au monde qui concentre le plus de potentiel de danger en termes de quantité de matière radioactive réunies sur un seul site. La situation française a cette spécificité qu'on est très dépendant du nucléaire pour notre électricité et que même si des scénarios alternatifs sont possibles, les réacteurs sont là pour encore un moment. L'héritage des réacteurs, les entreposages et stockages de combustibles et de déchets sont là pour encore plus longtemps et donc le renforcement de la sûreté est une préoccupation dans tous les cas. Après, effectivement, le constat que l'on fait après Fukushima sur le niveau de risque des installations nucléaires renforce la pertinence de scénarios alternatifs. Et pour rester sur le cas de la France, j'ai personnellement contribué fortement à un scénario énergétique à l'horizon 2050 qui s'appelle le scénario Négawatt, qui montre très bien que l'on peut, en agissant sur la demande, sur une plus grande sobriété dans nos comportements, dans nos gaspillages d'énergie et sur une plus grande efficacité dans nos équipements, réduire la consommation d'énergie tout en maintenant un confort de vie suffisamment pour fournir l'énergie dont on a besoin avec les renouvelables, en particulier en France où on a un potentiel naturel extraordinaire de ce point de vue-là. Et donc il est tout à fait possible, à l'horizon de quelques dizaines d'années, de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, qui est notre premier problème énergétique, et de le faire en se passant en même temps du nucléaire, et donc en fermant, sans prolonger sa durée de vie, le parc nucléaire existant.
Yves Marignac, directeur de l'Agence française d'information et d'études sur l'énergie Wise Paris, est également l'un des co-auteurs de ce rapport. Donc ce rapport a été rendu public, comme vous le savez, lundi dernier par Greenpeace. Vous pouvez donc le trouver dans le détail sur le site du Greenpeace, mais sur de nombreux autres sites. Sachez qu'un résumé donc plus court a été fait et il est beaucoup plus simple, beaucoup moins technique, qui vous permettra tout de comprendre dans le détail, mais sans rentrer trop dans la technique. Sachez qu'il existe donc des scénarios alternatifs. Nous essaierons prochainement de faire une émission sur le manifeste de Négawatt. En attendant, et pour finir cette chemise à rayures spéciale nucléaire, voici une interview vidéo diffusée sur le site internet de Greenpeace.
En France, nous avons une situation tout à fait particulière vis-à-vis de l'énergie nucléaire, puisque 80% de notre électricité est produite par le nucléaire. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'entre énergie ou électricité, ce n'est pas la même chose. Et en France, on a souvent confondu les deux. Dans le monde aujourd'hui, le nucléaire ne produit que 2,5% de la quantité d'énergie consommée. C'est donc extrêmement marginal. Le nucléaire aujourd'hui n'est pas une fin en soi telle qu'on voudrait nous le faire croire en France. Donc, le nucléaire aujourd'hui ne répond pas à notre question d'urgence absolue que nous voulons combattre, qui est le changement climatique. Nous avons des délais extrêmement faibles, nous devons agir très très vite. Or, les investissements dans le nucléaire sont colossaux, ils représentent des dizaines de milliards. Et puis surtout, il va falloir beaucoup de temps pour mettre un parc nucléaire en place. Et puis même, si on était dans un scénario très pro-nucléaire, eh bien nous arriverions au maximum à doubler le nombre de réacteurs présents sur Terre en 2050. Et en doublant, on arriverait à une efficacité sur les gaz à effet de serre que maximum 6%. Il est clair que le nucléaire ne peut pas être une réponse à cette question de l'effet de serre. Et puis l'autre problème évidemment du nucléaire, ce sont les problèmes, on va dire, annexes, connexes, mais immédiats, qui vont être le lien avec le militaire. La situation en Iran aujourd'hui nous le démontre. Le nucléaire n'est pas civil en tant que tel, il utilise des matériaux qui peuvent être utilisés à des fins militaires, et donc on a un vrai problème de prolifération avec le nucléaire. Autre problème, c'est que loin d'être une énergie propre, telle qu'on voudrait nous le dire, puisqu'elle produirait peu de CO2, le nucléaire est en fait un producteur de milliers de tonnes de déchets nucléaires dont aujourd'hui personne dans le monde n'a de solution. C'est quand même un triste héritage pour nos enfants. Donc c'est un gouffre d'argent, ce n'est pas une solution à l'urgence climatique et en même temps on a des quantités d'autres problèmes annexes. Donc le nucléaire ne répond pas du tout ni à la crise énergétique ni à l'urgence climatique. Il faut aller très très vite. Et on le sait, puisque dans les années 70, on a eu ce passage du tout pétrole au tout nucléaire. Lorsqu'on a une volonté politique, on peut changer les choses. Le problème, c'est que ces dizaines de milliards qu'on serait tenté aujourd'hui facilement d'investir dans le nucléaire, il faut absolument les investir dans une véritable politique ambitieuse, avant tout d'efficacité énergétique et évidemment de développement du renouvelable. Le problème en France, c'est que nous avons un lobby nucléaire, une industrie nucléaire très puissante et qui monopolise évidemment la recherche, qui monopolise l'argent. Et puis nous avons, malgré tout, un développement qui est en cours du renouvelable. Par contre, nous avons un vrai problème, c'est que l'efficacité, tout le monde en parle, mais personne ne le fait. Il faut absolument que l'argent soit investi là. Il est clair que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas.